la venue du Fils de Dieu sur la terre est un événement si immense que Dieu a voulu le préparer pendant des siècles. En célébrant chaque année la liturgie de l'Avent, l'Église actualise cette attente du Messie. Qu'est-ce que ça veut dire que sans cesse il y a l'année liturgique qui recommence? Nous sommes maintenant presque arrivés à l'heure de la naissance de Jésus et nous l'avons attendu depuis 4 semaines. Eh bien, la liturgie actualise pour nous l'unique événement tel qu'il a eu lieu. Ça veut dire que quand nous allons célébrer dans quelques heures la naissance de Jésus, que nous allons nous rendre à l'Église pour participer à la liturgie de la naissance de Jésus, ce n'est pas nous rappeler un événement, mais la liturgie rend actuel pour moi l'unique événement. C'est un vrai miracle dans le temps. C'est comme si disparaissaient les 2000 années qui me séparent de la naissance de Jésus. Je suis le berger. Je ne fais pas semblant d'être comme un berger. Cette nuit, dans la nuit de Noël, l'enfant vient au milieu de nous. Il naît de Marie. Il est l'Emmanuel. Le ciel se réjouit. Le monde est en fête. Le Seigneur vient, lui, notre roi. Pendant tout le temps du Lavant, nous nous sommes préparés à l'arrivée de Jésus, avec une foi plus grande, une obéissance du cœur. La gloire du Seigneur va remplir l'univers. Le Seigneur va venir, un enfant va naître. Quel grand mystère, la liturgie. Au même moment, sur toute la surface de la terre, tous les chrétiens unis d'un seul cœur, nous sommes présents à l'unique événement qui a eu lieu à Bethléem. Alors réjouissons-nous, alors préparons notre cœur, alors osons, comme dans les contes, ces tout petits bergers qui n'osaient pas s'approcher. Laissons cette nuit de la naissance, Marie déposée dans nos bras au moment de la communion, son enfant, le Verbe de Dieu fait chair. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 525, nous lisons: le mystère de Noël, Jésus est né dans l'humilité d'une étable, dans une famille pauvre. De simples bergers sont les premiers témoins de l'événement. C'est dans la pauvreté que se manifeste la gloire du ciel. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel. La terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs le louent. Les mages avec l'étoile s'annoncent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. Devenir enfant, c'est la condition pour entrer dans le royaume. Devenir petit, naître d'en haut, naître de Dieu. Le mystère de Noël s'accomplit en nous lorsque Jésus prend forme en nous. Noël est le mystère de cette admirable échange. Ô admirable échange, le créateur du genre humain, assumant un corps et une âme, a daigné naître d'une vierge et devenu homme sans l'intervention de l'homme, il nous a fait don de sa divinité. Chaque fois que nous assistons à la messe, chaque fois que nous y participons, nous entendons le prêtre dire au moment de l'offertoire, comme cette goutte d'eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance nouvelle et éternelle, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Comme cette goutte d'eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Voilà ce que la liturgie rend actuel pour nous dans la nuit de Noël. Donnons la parole au pape François. Le 22 décembre 2021, dans une catéchèse sur la naissance de Jésus, il disait, à quelques jours de Noël, « Je veux évoquer avec vous l'événement que l'histoire ne peut plus ignorer, la naissance de Jésus. » Pour se conformer au décret de l'empereur César Auguste, qui leur ordonne de se faire enregistrer à l'état civil de leur contrée d'origine, Joseph et Marie descendent de Nazareth à Bethléem. Dès leur arrivée, ils cherchent immédiatement un endroit où loger, car la naissance est imminente, mais malheureusement, ils ne trouvent pas d'endroit. Et Marie est contrainte d'accoucher dans une étable. Réfléchissons, le Créateur de l'univers, on ne lui a pas permis d'avoir un lieu pour naître. Peut-être était-ce une anticipation de ce que saint Jean nous dit. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et Jésus lui-même nous dira « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Ce fut un ange qui annonça la naissance de Jésus à des humbles bergers et une étoile qui indique au mage le chemin de Bethléem. L'ange est un messager de Dieu. L'étoile nous rappelle que Dieu a créé la lumière et que cet enfant est la lumière du monde, la vraie lumière qui éclaire tout homme, qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'arrêtent pas. Et les bergers symbolisent les personnes humbles qui vivent intérieurement avec la conscience de leur faiblesse, mais qui font confiance à Dieu plus que les autres. Et ils sont les premiers à voir le Fils de Dieu fait homme. Et cette rencontre les change profondément. L'Évangile note, ils s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Quelle merveille! Notre Père Saint François, conscient que la liturgie rend actuel l'unique mystère qui a eu lieu une seule fois et que la liturgie fait ce miracle du temps, je le répète, où c'est nous qui sommes comme transposés à cet instant où Dieu se fait homme. Saint François, quand il contemple ce mystère, il va dire à tous ses frères, dans la première des admonitions, chaque jour, le Fils de Dieu s'abaisse exactement comme à l'heure où, quittant son palais royal, il s'est incarné dans le sein de la Vierge. Chaque jour, c'est lui-même qui vient à nous, et sous les dehors les plus humbles. Chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel, entre les mains du prêtre. Et de même qu'autrefois, il se présentait aux saints apôtres dans une chair bien réelle, de même se montre-t-il à nos yeux maintenant dans le pain sacré. Les apôtres, lorsqu'ils le regardaient de leurs yeux de chair, ne voyaient que sa chair. Mais ils le contemplaient avec les yeux de l'esprit et croyaient qu'il est Dieu. Nous aussi, lorsque de nos yeux de chair, nous voyons du pain et du vin, sachons voir et croire fermement que c'est là, réel et vivant, le corps et le sang très saint du Seigneur. Tel est le moyen qu'il a choisi de rester toujours avec ceux qui croient en lui, comme il l'a dit lui-même, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et dans la lettre à tout l'ordre, saint François ajoute « Que tout homme craigne, que le monde entier tremble, que le ciel exulte quand le Christ, le Fils du Dieu vivant, est sur l'autel entre les mains du prêtre. Ô admirable grandeur et stupéfiante bonté, ô humilité sublime, ô humble sublimité, le Maître de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie pour notre salut au point de se cacher sous une petite hostie de pain. Voyez, frères, l'humilité de Dieu. Faites-lui l'hommage de vos cœurs. Humiliez-vous, vous aussi, pour pouvoir être exaltés par lui. Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Voilà à quoi, dans la nuit de Noël, la liturgie nous invite à avoir ce cœur humble, à avoir ce cœur humble, ce cœur qui tressaille, ce cœur qui s'extasie. Ailleurs encore, saint François, dans le psautier, il nous dit « Voici le jour que le Seigneur a fait, jour de triomphe et jour de joie, car un enfant nous est né. Il est né pour nous, pèlerins sur la route. Nulle chambre pour l'héberger, il est né dans une crèche. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte, que jubile la mer avec ses habitants, que fleurissent les plaines et chantent les forêts. Chantez le Seigneur, terre entière, le Seigneur est grand. Faites don de vous-même et portez sa croix. Obéissez jusqu'au bout à ses commandements. » Et écoutons encore sainte Claire. Pour l'amour du Seigneur qui est né pauvre dans la crèche, qui a vécu pauvre sur terre et qui est resté nu sur la croix, je vous demande de toujours suivre les traces et l'humilité du Fils de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie. Et elle écrit encore dans la quatrième lettre à Sainte Agnès de Prague. Voici la pauvreté de l'enfant couché dans la crèche, enveloppé de quelques méchants langes. Humilité admirable, stupéfiante pauvreté. Le roi des anges, maître du ciel et de la terre, repose dans une mangeoire d'animaux. Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain, qui renvoie bien sûr à ce grand mystère de l'Eucharistie. Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Dans la pauvre mangeoire d'une sombre étable, il y a vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi est-il né dans la nuit, sans logement digne, dans la pauvreté, dans le refus, alors qu'il méritait de naître comme le roi des rois dans le plus beau des palais? Pourquoi ? Pour nous faire comprendre jusqu'où il aime notre condition humaine, qu'il a assumée pour lui-même, pour nous faire comprendre jusqu'à toucher de son amour concret notre misère. Le Fils de Dieu est né rejeté pour nous dire que toute personne rejetée est fils de Dieu. Il est venu au monde comme vient au monde tout petit enfant, faible et fragile, pour que nous puissions accueillir nos fragilités et découvrir une chose importante. Comme à Bethléem, avec nous, Dieu aime faire de grandes choses à travers nos pauvretés. Il a mis tout notre salut dans la mangeoire d'une étable. Il ne craint pas la pauvreté de notre cœur, pourvu que nous laissions sa miséricorde transformer notre misère. Seule l'humilité est le chemin qui nous conduit à Dieu. Et parce qu'elle nous conduit à Dieu, elle nous conduit à l'essentiel. Seule l'humilité, si chère à Saint François, nous ouvre à l'expérience de la vérité, de la joie, de la connaissance qui compte. Sans humilité, nous sommes dans l'orgueil de nos premiers parents, coupés de la compréhension de Dieu et de la compréhension de nous-mêmes. Il faut être humble aussi pour nous comprendre nous-mêmes et pour comprendre Dieu. Les mages, ils étaient grands selon la logique du monde, mais ils se sont faits humbles, petits. Ils se sont prosternés. Ils ont reconnu celui qui dira « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. » Ils acceptent de chercher. Ils se sont mis en route. Ils ont demandé. Ils ont risqué de se tromper. Cette nuit de Noël, osons nous mettre en route. Osons commencer à chercher Dieu de tout notre cœur. Seigneur, apprends-moi à te chercher. Montre-toi quand je te cherche. Je ne peux pas te chercher si tu ne m'enseignes pas. Je ne peux pas te trouver si tu ne te montres pas. que je te cherche en te désirant, que je te désire en te cherchant, que je te trouve en te cherchant et que je t'aime en te trouvant. C'est vraiment ce qui se passe pendant la divine liturgie où nous irons nous avancer jusqu'à l'autel de Dieu et où nous allons longuement regarder ce tout petit couché dans la mangeoire. L'humilité, c'est une grâce. Seigneur, que je ne sois pas orgueilleux, que je ne sois pas autosuffisant, que je ne croie pas être le centre de l'univers. Rends-moi humble. Donne-moi la grâce de l'humilité. Avec cette humilité, je peux te trouver. C'est le seul moyen. Sans humilité, nous nous trouvons nous-mêmes. Parce que quand on n'a pas d'humilité, on n'a pas d'horizon. On a un seul miroir. On se regarde soi-même. Demandons à Noël, au Seigneur, de briser le miroir de l'orgueil, d'ouvrir devant nous un large horizon, de nous donner la grâce et la joie de l'humilité véritable. Et puis, quand nous reviendrons à la maison, avec le souhait des anges, paix sur la terre aux hommes qu'ils aiment, nous nous rappellerons, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a aimés le premier, il nous a cherchés. N'oublions jamais cela. Dieu nous cherche. Voilà la raison de notre joie. Nous avons été aimés, nous avons été cherchés. Le Seigneur nous cherche pour nous trouver, pour nous aimer davantage. C'est la raison de notre joie à Noël. Savoir que sans mérite, nous sommes aimés. Dieu nous précède toujours dans l'amour, un amour si concret qu'il s'est fait chair, qu'il est venu habiter parmi nous, dans cet enfant que nous voyons dans la crèche. C'est Jésus. Jésus, c'est le nom et le visage de l'amour. Oui, que ce Noël nous donne la certitude que Dieu est venu pour moi. Que chacun d'entre nous se le dise, Dieu vient pour moi, avec la conscience que pour chercher Dieu, pour trouver Dieu, pour accepter Dieu, nous mendions ce cœur humble. Alors Dieu peut venir chez nous, il peut toucher notre cœur et notre cœur sera dans l'allégresse. y a encore un petit aspect qu'il faut souligner. C'est l'importance du silence. Je voudrais partager avec vous une méditation du cardinal Pierre de Bérulle. Il a intitulé sa méditation « Le silence de Marie ». Nous pouvons appeler de la même manière le silence de Joseph, parce que de Joseph, nous n'avons aucune parole. Nous savons seulement que Dieu lui a dit « Tu l'appelleras du nom de Jésus ». C'est lui qui a donné le nom. Et donc nous avons la certitude que Joseph a parlé et qu'il a dit le nom de Jésus. Écoutons et recevons dans notre cœur ce magnifique texte du cardinal de Bérulle. C'est le partage de la Vierge d'être en silence. C'est sa vie, c'est son état, c'est son chemin. Sa vie est une vie de silence qui adore la parole éternelle. En voyant devant ses yeux, en son sein, en ses bras, cette même parole, la parole éternelle du Père, muette, réduite au silence par l'état de son enfance, elle rentre dans un nouveau silence. Elle y est transformée. À l'exemple du Verbe incarné qui est son Fils, son Dieu, son unique amour. Et sa vie se passe ainsi, de silence en silence, de silence d'adoration, en silence de transformation. Marie est en silence, ravie par le silence de son Fils Jésus nouveau-né. C'est un des effets du divin silence de Jésus, de mettre sa très sainte mère dans une vie de silence, silence humble, profond. Une parole qui exprime le Verbe éternel. Ce silence de la Vierge n'est pas un silence de bégaiement, c'est un silence de ravissement, c'est un silence de lumière. C'est un silence dans les louanges de Jésus. Aussi est-ce une merveille de voir qu'en cet état de silence et d'enfance de Jésus, tout le monde parle et Marie ne parle pas. Le silence de Jésus a plus de puissance de la tenir en silence que les paroles des anges. Les anges parlent, ils parlent entre eux, ils parlent aux bergers. Et Marie est en silence. Les bergers courent, ils parlent. Et Marie est en silence. Les rois arrivent, ils parlent, ils font parler toute la ville, tout l'État, le synode de Judée. Et Marie est en silence. Tout l'État est ému. Tout Jérusalem, chacun s'étonne, tout le monde parle du nouveau roi recherché par les rois. Et Marie est dans son silence. Siméon parle au temple et Anne la prophétesse et tous ceux qui attendent le salut. Et Marie offre, donne, reçoit et rapporte son fils en silence. Tant le silence de Jésus a de pouvoir sur le cœur de la Vierge et la garde divinement occupée en silence. Car aussi, durant tout le temps de son enfance, nous n'avons que ses paroles rapportées sur la conduite de Marie. Marie gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Voilà l'occupation de la Vierge. Voilà sa vie durant toute l'enfance de Jésus. Eh bien, en cette nuit bénie de Noël, nous allons entrer à la fois dans la joie de la fête, mais notre cœur, là où il y a le plus profond de notre être, viendra rejoindre le silence de Bethléem, le silence de Joseph, le silence de Marie, le silence de l'enfant qui dort. Et là, dans ce silence, Dieu nous fera le don d'une confiance sans limite qui va nous conduire à l'amour, dans la grâce de l'humilité. Alors, joie de Noël, il est né pour nous le divin enfant et nous le reconnaissons à ce signe. Il est couché dans une mangeoire, il est enveloppé de l'ange. Il est le Fils du Très-Haut, il est l'enfant de Marie, le Fils de Dieu, il est notre joie. Joie de Noël. Amen.
Et incarnatus est, né